hors champ. Bonjour, hors champ aujourd'hui avec Sylvie Germain, émission numéro 1. Sylvie Germain, le fait d'être née dans la région où a vécu George Sand vous a-t-elle donné une sensibilité, cette sensibilité si particulière qui parcourt l'ensemble de vos romans avec la nature ?
Je pense pas, ou alors c'était rapide et intense, puisque j'ai quitté le Berry à l'âge d'un an et demi à peine.
Ah oui, mais c'est peut-être... Oui, déjà mais... l'âge où c'est on vrai. Est sensible aux fées, aux loups-garous.
Et voilà. Alors, les fées et les fadettes, j'ai dû les avoir sur mon berceau. Et après, le garou, vous dites juste parce que j'ai passé 4 ans dans en Lozère. Et là, la légende du loup-garou restait très, très vivace. Je me souviens, il y avait une grande sculpture, et des hivers incroyablement rudes, des paysages sublimes. Donc voilà, une fadette penchée sur le berceau et après le loup-garou.
Et en Lozère, effectivement, sur les places des villages, ce ne sont pas des saints qu'il y a, mais ce sont bien des loups.
Je les ai pas vus, hélas. Enfin, vivants, j'entends, vivants.
Oui, mais vous en avez entendu parler, vous avez peut-être eu peur.
Mais c'est étrange nos rapports avec les animaux, parce qu'en même temps, un animal comme le loup, plus l'ours aussi quand même, fait tellement partie de notre imaginaire enfantin, puisque c'est dans les contes, le petit chaperon rouge, etc. Et le loup est un animal à la fois redoutable, mais parfois qui passe aussi pour un idiot, comme dans des contes ou dans les livres d'enfants. Et il correspond dans la réalité à un animal assez terrifiant, lui-même devenu légende dans la réalité. Et par ailleurs, encore une autre forme de légende, de par les contes et les histoires pour les enfants. Et c'est assez étonnant, cette espèce de croisement avec certains animaux.
Vous avez décidé non pas de devenir horticultrice, mais vous avez décidé de devenir philosophe dans une première vie, Sylvie Germain.
Mais horticultrice, ça aurait été un magnifique métier, ce qui me fait beaucoup rêver. Il y a plein de métiers comme ça qui font rêver. Je trouve que horticulteur, jardinier, paysagiste, c'est des métiers magnifiques, magnifiques.
Ouais, mais vous vous vengez sournoisement dans vos romans.
C'est-à-dire que l'espace du roman permet de se venger sournoisement, comme vous dites.
Amoureusement.
De tout ce que, voilà, ça serait plutôt amoureusement. De tout ce qu'on n'a pas pu faire, de tout ce qu'on n'a pas su faire, parce qu'on peut mettre en scène des personnages faisant des métiers ou des activités ou des voyages qu'on n'a jamais fait. Donc, c'est pour ça l'espace du roman est extraordinaire. Bah, regardez Jules Verne, je crois qu'il avait quasiment jamais voyagé. Il s'est bien défoulé.
Vous avez d'abord voyagé dans l'univers de la philosophie. Nous allons écouter un homme qui a beaucoup compté pour vous et pour nous encore aujourd'hui, car je pense qu'il faut le relire pour pouvoir comprendre la généalogie du nazisme, puisque c'est lui qui a écrit le premier texte pour alerter dès 1933 la transformation du régime. Je veux parler d'Emmanuel Lévinas.
Je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans, n'est-ce pas ? Et je n'ai pas vécu, j'étais prisonnier de guerre pendant cette guerre, et je n'ai pas assisté à l'extermination de ma famille à Lituanie, n'est-ce pas ? Toute la famille. Par conséquent, dans ce sens-là, on a peut-être tort de survivre, n'est-ce pas ? Tout le monde a été ballotté de la même manière. On a tort de survivre. Je dois vous dire que même dans ma philosophie, c'est un moment très essentiel. Sa dernière préoccupation, celle que j'arrive peut-être maintenant à formuler maintenant, consiste à se demander si l'humain comme tel n'est pas la question qu'on se pose si on a le droit de vivre. Vous comprenez, c'est pas une chose gratuite. Dans toute la philosophie traditionnelle, la persévérance de l'homme, la persévérance de l'être, dans l'être, ce que passait pour le premier droit, même pour la première certitude, même pour la source de toute vérité après. Cela est incontestable. Moi, je me suis demandé si le moi, comme tel, n'est pas dans l'être lui-même le moment où on se demande si il est tout à fait naturel d'être. Vous comprenez, le mot de Pascal, n'est-ce pas, le moi est haïssable, prend pour moi cette signification. L'apparition du moi, c'est le moment où, brusquement, l'affirmation de mon identité est ipso facto la nécessité de reculer et de ne pas être le premier, de ne pas affirmer ça comme une priorité.
Mais vous avez répété à deux reprises, on a tort de survivre.
On a tort de survivre parce que c'est un privilège qu'on ne comprend pas. On n'a pas mérité ça. C'est un concours de circonstances. Être survivant de tout cela, c'est une chose. Vous savez, quand on oublie maintenant, on présente ça maintenant comme une péripétie de l'histoire. Il y a des gens qui expliquent cela maintenant. Il y a des gens qui contestent cela. Mais il y a des esprits bien pensants qui expliquent cela. Alors que pour moi, vous parlez de croyance, l'irruption du transcendant, c'est d'un tel événement.
C'était la voix d'Emmanuel Lévinas au micro de Jacques Chancel en 1980. Vous avez fait votre thèse sur Emmanuel Lévinas et plus particulièrement sur le visage, qui est un concept clé dans sa philosophie. Que vous a-t-il apporté, Sylvie Germain ?
J'ai pas fait ma thèse sur sa pensée. Hein. Je me serais jamais autorisée. Je considérais la compétence pour le faire. J'étais très attirée par le thème du visage. Avant de faire ce travail de doctorat de troisième cycle, j'avais dû faire un DEA. Bon, et je l'avais fait en esthétique. Et donc j'étais partie sur ces idées qui étaient assez à la mode, le visage, visage-paysage, les orifices, les trous, etc. Bon, j'étais plutôt partie pensant Deleuze, Guattari. Et puis en fait, face à ce questionnement du visage, beaucoup à travers aussi méditation devant la peinture, parce que j'aimais m'intéresser beaucoup à l'histoire de l'art, de la manière la plus évidente m'est venue, mais il y a ce philosophe dont on parlait un peu moins que maintenant à l'époque, il y a ce philosophe qui a fait toute une œuvre sur le visage. Donc je suis allée voir, bien sûr, du côté de l'œuvre de Lévinas, que je ne prétends pas connaître ni intégralement, ni très profondément. Mais bien évidemment, j'ai lu ses ouvrages principaux, et en même temps je me disais, mais bon, voilà, tout est fait, tout est dit, d'essentiel sur le visage. Et malgré tout, j'ai fait mon travail. Avant, j'avais travaillé sur la mystique chrétienne, donc j'avais il y avait la philo, il y avait l'histoire de l'art, il y avait la mystique chrétienne, il y avait les réflexions de Lévinas, et disons que moi, j'ai tricoté, en fait, on fait que tricoter à ces âges-là encore, sa pensée avec plein d'éléments de la pensée des autres. On ne se nourrit que de la pensée, finalement, des autres, pour essayer de faire avancer sa propre pensée. Mais j'ai toujours l'impression d'avancer, mais vraiment un tâton. Et dans ce tâtonnement, mais voilà, on a besoin de la pensée des autres. Et je voulais juste dire, parce que c'est tellement merveilleux chaque fois, d'entendre déjà la voix des disparus et la voix de Lévinas, qui a un timbre de voix, mais tellement particulier, on le reconnaît tout de suite, parce qu'il a toujours cet essoufflement. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus troublant. Pour moi, c'est déjà le visage, ça. C'est d'entendre le souffle, l'espèce comme ça de respiration qui se cherche. Lévinas, c'était quelqu'un, on le voyait, on l'entendait penser. Avec ses... sans arrêt ce souffle qui reprenait et puis ce tic de langage qui chez lui était absolument merveilleux, spa, n'est-ce pas, spa. Constamment il scande son discours comme ça. Et quand je l'entends, je revois son visage comme je le voyais à la Sorbonne quand il donnait ses conférences. J'étais pas vraiment une disciple, on va dire, hein. Je n'ai pas suivi ses cours plus particuliers avec quelques élèves, mais j'assistais à ses cours magistraux. Et donc voilà, j'étais très heureuse de l'entendre.
Pourquoi avez-vous étudié la mystique chrétienne? Est-ce que c'était par rapport à votre propre éducation pour essayer de comprendre mieux ce qui vous a été inculqué ou c'était une passion personnelle plus philosophique justement?
Vous savez, c'est dans ces années-là, quand j'étais plus jeune, dans les milieux catholiques qui n'étaient pas du tout très investis dans cette foi, dans la foi et dans la pratique religieuse. C'était une pratique religieuse, je dirais, je résume un peu, c'est toujours plus complexe. Mais plutôt social, de tradition. Mon père, je pense, avait une foi plus, mais très travaillée intellectuellement. C'était un grand lecteur de Teilhard de Chardin. Bon, il se posait tout un questionnement. Chez ma mère, c'était moins évident. Je crois que c'était plus superficiel, traditionnel. J'aurais été une famille autre, ben voilà. Et l'enseignement que j'ai reçu, si on peut appeler ça enseignement, il avoisinait zéro. Le catéchisme dans des petites villes de province dans les années 60, franchement, je n'ai pas eu. Comme je n'étais pas dans une école religieuse, mais dans des écoles laïques, j'allais à un catéchisme quelques années. J'ai un souvenir, quand on me demande quels sont vos souvenirs de catéchisme, c'est triste à dire, mais je dis l'ennui. Bon, je n'ai pas appris grand-chose, donc je ne peux pas dire que j'ai été très imprégnée à ce niveau-là. Mais comme tout le monde, à l'adolescence, il y a déjà un énorme questionnement. Tout ça devient totalement non évident. Mais c'était pas un rejet brutal non plus, mais moi je n'ai jamais connu ce qu'on appelle des expériences mystiques. À la limite, je ne sais pas ce que c'est. Par une espèce d'empathie intellectuelle, si tant est que ça a un sens de dire ça, j'ai essayé de comprendre. Et comme dans les années 70, quand je suis rentrée à la Sorbonne, là, les questions religieuses n'étaient pas spécialement à l'ordre du jour.
Non, c'était pas tout à fait la mode.
Non, donc j'entendais tous ces discours. Moi, je me souviens, il y en avait qui voulaient faire des maîtrises, une lecture marxiste de Platon, une lecture marxiste de Descartes. Bon, qu'est-ce qui n'était pas une lecture marxiste? Et moi, je débarquais là avec mes questionnements quand même. J'ai pas essayé de faire une lecture marxiste de Thérèse d'Avila ou de Saint-Jean de la Croix. J'ai voulu essayer de comprendre ce que justement je ne comprenais pas. Enfin, je veux dire, le but de la philo, c'est quand même un peu ça. On va là et on s'arrête là où les choses nous posent vraiment question, d'une manière essentielle. Et à l'époque, malheureusement, j'ai pas travaillé sur la mystique rhénane, qui en fait me touche peut-être davantage. Et je m'étais intéressée, enfin, quand même, à deux monuments prodigieux, qui étaient les œuvres de Thérèse d'Avila et de Saint-Jean de la Croix, pour essayer de comprendre le sens de ce qu'on appelle l'ascèse. Qu'on avait tendance à ridiculiser ou à réduire, vous savez, ces images très dévalorisantes qu'on pouvait avoir de mortification, etc. Tout un discours pseudo-nietzschéen, en fait, parce que c'est quand même un peu plus élaboré que ça, les critiques de Nietzsche. Et j'ai voulu essayer de comprendre, voilà. Donc je suis allée travailler là-dessus. Mais dès que vous travaillez sur de la pensée chrétienne, obligatoirement en amont, qu'est-ce qui va réaffleurer? C'est aussi tout le Premier Testament. On y est renvoyé constamment. Donc aussi à travers ça, il y avait tous ces remuements. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est dans la voix de qui que ce soit. Que ce soit la voix orale, comme ça. Que ce soit la voix dans les textes. C'est d'essayer d'entendre, de percevoir ces confus remuements d'autres voix qui peuvent être millénaires derrière. Et voilà. Donc, je crois qu'à travers ça, la question du visage a déjà commencé à affleurer. Dans un premier temps, phénomène de mode, je me suis un petit peu trompée de perspective, mais très très vite, je me suis rendu compte que là où je pensais aller, ça n'allait pas. Et lecture de Lévinas, lecture d'autres penseurs, et voilà comment les choses s'enchaînent.
Deux de vos livres, Sylvie Germain, traitent du combat entre Job et l'ange, mais vous n'êtes pas pour autant arrangé dans le rayon des auteurs catholiques.
Je sais que certains qui ne me lisent pas et qui ne me liraient surtout pas m'ont estampillé comme ça, et en plus comme si c'était à la limite quelque chose de restrictif, de ridicule ou une insulte. Bon, je crois, on le sait tout ça, c'est devenu des lieux communs que le catholicisme paye depuis un petit siècle et en accéléré les outrances commises pendant des siècles. La grande erreur, le grand errement de l'Église, ça a été de se lier au pouvoir. Bon, on le sait, ça c'est le drame de toute religion. Alors il lui faut peut-être s'allier au pouvoir un temps pour s'imposer, mais en même temps il perd son âme. Tout ça on le sait. Et bon, depuis maintenant plus d'un siècle, le déclin du christianisme en général et du catholicisme en particulier est maintenant vraiment patent, quoi. Il y a des choses admirables aussi dans le courant de cette histoire, il y a des choses épouvantables. Il faut faire la part des choses, le tri des choses. Et pour moi, ça ne porte pas préjudice à ce qui est quand même l'essentiel, c'est-à-dire les textes eux-mêmes. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les textes, voilà. Et donc, les évangiles, où il y a des choses absolument admirables. Et comme tout grand texte, il reste indéfiniment à penser, à réfléchir, à songer, à méditer à partir de ces textes-là.
Vous, Sylvie Germain, vous puisez votre imaginaire aussi bien à la relecture des évangiles qu'à la méditation devant la beauté d'un mimosa au printemps, que l'imagination d'un personnage qui va progressivement disparaître d'une société où les plus humbles d'entre nous n'ont pas droit à l'existence. Comment choisissez-vous vos sujets et à partir de quelle matrice vos romans s'organisent et se trament ?
L'imagination, c'est une sorte de matériau informe. Il se nourrit de tout, c'est au quotidien. Ça va être aussi bien... Alors là, bon, on a évoqué la philosophie, plus particulièrement Lévinas. On pourrait donner plein d'autres noms. Alors, il y a toute la part...
Bernanos.
Oui, mais si on commence, ça va faire de longues listes, Dostoïevski et tant d'autres, et pas seulement des auteurs chrétiens. Hein, c'est pas limité de cette manière-là. Non, l'imagination, elle est à la fois, bien sûr, très très nourrie culturellement, pas seulement la littérature, la philo, mais on peut mettre la musique, la peinture, enfin tout. Bref, mais c'est également par les choses les plus humbles qui soient. Ça peut être aussi du côté d'une forme de grande beauté dans la nature. Un mimosa, des roses, tout ce qu'on voudra, mais aussi ce qu'on pourrait penser la laideur. D'ailleurs, moi, je n'aime pas ces distinctions, le beau, le laid, parfois l'extrême laideur devient presque fascinante. Donc, elle est presque du côté d'une forme de beauté. Le beau, comme le disait ce vers absolument magnifique de Rilke, car le beau n'est rien que le premier degré du terrible, à peine le supportons-nous. Donc, c'est tout ce qui va, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il se passe une certaine intensité même jusque dans de la fadeur. Ça va sembler incompatible. Non. Ce qu'on appelle la fadeur, mais là je pense plutôt au sens où on parle merveilleusement, là encore, quelqu'un comme Verlaine. Hein, le fade, par exemple, chez Verlaine. Le fade peut avoir en fait une saveur. Tout est une question d'attention. D'attention portée à l'instant présent, d'attention portée à de minuscules choses parfois, qui peuvent être sordides, qui peuvent être belles, qui peuvent être émouvantes, qui peuvent être déchirantes, enfin bon, on pourrait donner plein de termes. L'imaginaire fait feu de tout bois, il ramasse tout. Moi je compare toujours un écrivain à ce qu'on appelait les chineurs, ceux qui font les poubelles, ceux qui, vous savez, qui vont chiner partout, qui ramassent des tas de... Et parfois on peut trouver un bijou perdu, hein. Mais sinon, bon, bah, des bouts de carton, des bouts de ceci, des bouts de chiffon, et avec tout ça, on bidouille. Avec tout ça, on fait du... Comme on fait la pâte à papier, c'est à partir de quoi ? C'est à partir de... C'est fascinant de visiter une fabrique de pâte à papier. Moi, j'aime beaucoup, il y en a beaucoup d'ailleurs dans la région, enfin, il y en avait beaucoup dans la région où j'habite, en Charente. C'était vraiment une des régions de fabrication de pâte à papier. Quand vous voyez ces cuves avec des tissus qu'on a laissés, je ne sais plus quel. Il y a tout un vocabulaire particulier pour ça, mais bon, qui se délite en un sens dans de l'eau, c'est extraordinaire de voir ça, que les métamorphoses, vous voyez, les transmutations des matières pour devenir, vous partez de matière brute et puis ça finit par devenir de la matière un peu sublimée, et sur cette matière qui est du papier, on écrit. Alors là, c'est vraiment la sublimation totale de la matière, mais qui en même temps revient au cœur même. Comme si l'encre noire sur le papier blanc, c'était justement, vous savez, comme quand on saigne un arbre pour lui faire couler sa sève. C'est ça le travail de l'écriture. Et l'imaginaire, bah, c'est aussi, c'est la sève, c'est les racines, on tourne en rond dans des métaphores, mais tout nourrit tout, et tout revient à tout. Il y a des, comme ça, voilà, tout est en mouvement.
Vous avez évoqué l'esthétique, la philosophie. Nous allons écouter René Char.
La sorgue. Chanson pour Yvonne. Rivière trop tôt partie d'une traite sans compagnon, donne aux enfants de mon pays le visage de ta passion. Rivière où l'éclair finit et où commence ma maison, qui roule aux marches d'oubli la rocaille de ma raison. Rivière, en toi terre et frisson, soleil, anxiété. Que chaque pauvre dans sa nuit fasse son pain de ta moisson. Rivière souvent punie, rivière à l'abandon. rivière des apprentis à la calleuse condition, il n'est vent qui ne fléchisse à la crête de tes sillons. Rivière de l'âme vide, de la guenille et du soupçon, du vieux malheur qui se dévide, de l'ormeau, de la compassion. Rivière des farfelus, des fiévreux, des écarisseurs, du soleil lâchant sa charrue pour s'acoquiner aux menteurs. Rivière des meilleurs que soi, rivière des brouillards éclos, de la lampe qui désaltère l'angoisse autour de son chapeau. Rivière des égards aux songes, rivière qui rouille le fer, où les étoiles ont cette ombre qu'elles refusent à la mer. Rivière des pouvoirs transmis et du cri en bouquant les eaux, de l'ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau. Rivière au cœur jamais détruit dans ce monde fou de prison, garde-nous violents et amis des abeilles de l'horizon.
Donc c'est René Char lui-même qui lit ce poème qui est à la fois hyper matérialiste et en même temps complètement sensuel et enraciné dans son propre univers, j'allais dire, puisque de la Sorgue, il a fait sa constellation.
Oui, tout à fait, oui.
Et je trouve que dans votre écriture, Sylvie Germain, dans plusieurs de vos romans, il y a cette espèce de, à la fois d'altitude morale, de recherche d'exaltation spirituelle, de méditation personnelle, mais aussi d'incarnation de ce que peut nous procurer la beauté de la terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette espèce de d'assemblage
qui peut
paraître hétérogène, mais qui en même temps est très étrange quand on lit les livres depuis le premier?
Pour moi, c'est pas du tout incompatible, au contraire, justement. Tout à l'heure, on parlait de la fabrique de l'imaginaire, où finalement, on la nourrit en allant chiner, en allant glaner un peu tout, constamment au fil du temps, au fil des jours. Et il est bien évident aussi qu'il y a toujours des... Vous savez, je compare souvent ça aux sédiments déposés, justement, il parlait de la rivière, voilà. Et des sédiments déposés constamment, comme ça, par des rivières. Et donc, il y a des couches, il y a des strates. Et notre imaginaire, notre pensée, notre mémoire, elle se compose comme ça au fur et à mesure du temps. Il y a des choses, bon, mais qui finissent par pourrir et se dissoudre, disparaître. Et puis, il y en a qui vont se fossiliser, qui vont durcir. Il y en a qui vont se transformer. Il y en a, enfin, il se passe plein de choses. Il y en a qui vont donner une sorte d'humus très, très, très fécond sur lesquels vont pousser des choses très, très diverses. Donc, la terre fait partie, là, vraiment du... Mais quand on dit la terre, c'est... Qui dit terre dit aussi paysage. C'est à la fois élément. C'est très important, le côté élément, force tellurique, que l'on sent d'ailleurs souvent chez un poète comme René Char. À la fois, là, il était sensible aussi bien à la puissance tellurique, vraiment, des éléments, et au côté aussi paysage. D'ailleurs, les paysages de son pays, du pays de la Sorgue, on voit bien que sa poésie est en correspondance avec même sa manière de mettre en place les mots. On est marqué par ces paysages. Mais notre pensée même, je veux dire, notre champ mental, on peut aussi bien dire champ mental que paysage mental.
Je crois que vous, à l'intérieur du paysage littéraire, Sylvie Germain, vous avez inventé une nouvelle manière d'écrire. Quand on pense au premier livre qui s'intitulait « Le livre des nuits », on peut penser à une sorte d'ode, une sorte de long poème. Et quand on pense à un livre plus récent, « Chanson des mâles aimants », là, on peut penser à une dimension de fable, de conte. Et donc, on a l'impression que vous réussissez à faire sortir de votre imaginaire, du côté des ténèbres, des personnages à qui vous allez donner vie, mais qui en même temps renvoient une sorte d'universel. D'où tenez-vous ? On en revient au fait de votre toute petite enfance.
Je perçois la réalité comme ça. Et pour moi, le monde et notre vie est une fable. Et la réalité, il y a une dimension de fable. Alors, je le prends pas dans un sens ou de merveilleux, ou de fantastique, ou de délirant, ou justement de vouloir dorer les choses. Non, c'est pas ça. Pas en sens-là du tout. D'ailleurs, les vraies fables, quand on voit les récits qu'avaient collectés les frères Grimm pour les retranscrire en conte, et ensuite Perrault les édulcorants beaucoup, mais quand on voit les récits d'origine, en fait, on se rend compte que c'est très cru, c'est très rude. Et c'est ça qui est extraordinaire, que ce soit ce qu'on appelle les mythes, toute la mythologie, renvoie. Bien sûr, on sait très bien qu'il y a toute une part qui peut sembler délirante, mais c'est une manière de mettre en scène des événements, je dirais même des avènements, qu'on n'arrive pas à décrire de manière directe. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le délire. On sait très bien que les histoires de l'Olympe, les histoires des racontées par Ovide dans les Métamorphoses, on sait très bien que les choses ne se sont jamais passées telles quelles. C'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'à travers ces récits extravagants et magnifiques, qui en appellent à notre imagination, il y a quelque chose d'essentiel, du réel qui nous est dit. La réalité, elle est là, on fait avec, on vit dedans, on est obligé de se débrouiller avec constamment, voilà. Mais la réalité, pour moi, la réalité n'épuise pas le mystère de ce qu'est le réel, de ce qu'est le monde, de ce qu'est le temps, de ce qu'est... Je veux dire, il y a quelque chose qui nous échappe constamment. Comme s'il y avait toujours plus que ce qui est là. Voilà. Et écrire, c'est une manière d'essayer de... Pour moi, dès que je parle de ça, j'ai les mains qui s'ouvrent et qui font comme ça. C'est comme palper. Vous parliez tout à l'heure dans la poésie de René Char, à la fois un côté qui peut être très concret, à la fois extrêmement intellectuel, cérébral et tout, très concret, et vous dites physique et sensuel, bien sûr. Mais la langue même, pour moi, il y a une sensualité, c'est une sorte de matériau en apparence immatériel, impalpable et pourtant si. Vous voyez, les mots, ça participe, la langue, ça participe aussi de tout, ben de toute cette, comment dire, chair du monde. Voilà, la chair du réel, la chair, il y a une chair du visible, il y a une chair du silence, il y a une chair de tout. Parce que le mot chair, ça, voilà, on pourrait dire, le corps, c'est une chose, le corps, la réalité, on se voit, on est là avec nos corps, mais nos corps, ce sont ils sont enclos, je veux dire, notre chair, elle est sous la peau. Et c'est extraordinaire tout ce qui se passe sous notre peau. Hein, c'est dans la chair, les organes, le sang, tout ce qui se passe là, sous nos habits, sous notre peau, il se passe plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'on connaît de ce qu'on appelle la réalité? C'est ce qu'on voit comme ça, voilà. C'est ce à quoi on se heurte, ce avec quoi dont on peut tirer jouissance, dont on peut tirer souffrance, dont on peut tirer des tas de choses, soit. Mais c'est plus que ça. Et comme quand on se voit, on se croise, on peut admirer un corps ou mais aller le toucher, aller l'embrasser, aller l'étreindre, aller ou jusqu'à la s'il s'agit après de sexualité, la pénétration, c'est ça la connaissance justement du corps de l'autre. Mais peut-être que toute forme artistique, c'est une manière d'essayer de pénétrer. On peut l'entendre au sens biblique, au sens de connaissance, donc au sens sexuel, au sens amoureux, hein, de pénétration ou de palpation, étreinte, voilà, ou du moins d'essai du monde, du visible, et du réel.
Ben merci beaucoup, Sylvie Germain. On se retrouvera demain. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Samuel Bernard, Didier Lagarde, Anne Kobilac et Delphine Baudet. Vous écoutez France Culture, bon après-midi.